8 bliain untoch ar gachéine ar Radio San Ferrol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs,
d'ailleurs vers ailleurs.
Ya las espuelas calcé.
Outro parceiro, João Donato.
Bonjour, donc vous êtes bien sur une émission d'ici et d'ailleurs. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Mounira. Elle habite à Creil et elle vient de Mayotte. Nous allons parler de son histoire et de la situation à Mayotte. Mais tout d'abord, je voudrais préciser qu'on enregistre cette émission le 31 mars, donc à la veille de la commission mixte paritaire qui doit se prononcer donc demain, le 1er avril, mais quand vous écouterez, ça sera déjà passé, le droit du sol à Mayotte. Donc, on va mettre les résultats de cette commission paritaire sur le site. Donc, vous pourrez aller regarder si vous n'avez pas entendu ce résultat. Bonjour, Mounira.
Bonjour.
Donc, ça fait combien de temps que tu es à Creil ?
Depuis septembre 2024.
Ça va aller. On va parler un peu d'abord de ta vie à Mayotte, hein, puisque tu es là depuis quelques mois. Donc, on va te poser quelques questions sur ton enfance.
D'accord.
Oui, bienvenue, Mounira. Effectivement, on se pose quelques questions sur la manière dont se déroule ton enfance, s'est déroulée ton enfance à Mayotte, comment tu as vécu l'éducation, la famille, avais-tu des frères et sœurs?
Mon enfance à Mayotte s'est déroulée assez bien, je trouve. Une enfance normale, enfin, du moins quand on ne connaît pas les autres comment ils vivent dans d'autres pays, on ne peut pas dire que c'était pas normal. Et on est assez, on est très regroupé, très familial. On peut pas faire quelque chose sans penser à l'autre. Je sais pas comment expliquer pour que puisse voir la vision de ce que j'aimerais expliquer. Je suis l'aînée dans la famille, donc forcément, ça induit cette obligation de aussi entre guillemets, éduquer mes frères et sœurs de ceux qui vont suivre. Être l'exemple, on va dire, dans la famille. On nous donne tout de suite ce genre de direction que papa et maman n'est pas à la maison. Bah, en fait, c'est toi qui auras à les rênes pour éduquer tes frères et sœurs. Ils sont partis travailler, vous n'êtes pas à l'école. Bah, vous allez venir, tu seras à la maison avec eux. Et puis, voilà. On a un train de vie à Mayotte qui fait que on va à l'école, puis on va à l'école coranique, parce que Mayotte, c'est l'un des pays musulmans, on va dire, française. Donc, et on va à l'école coranique, il y a ce cheminement-là. C'est école coranique. Quand il y a d'autres loisirs, comme par exemple comme des centres de loisirs, des choses, on a cette possibilité d'y aller pendant les vacances. Sans oublier qu'il y a l'école coranique, c'est-à-dire que la mairie peut mettre en place des activités pour les jeunes qui ne peuvent pas se permettre pour aller dans des camps de vacances ou des choses comme ça, sans que, voilà, ils oublient qu'il y a l'emploi du temps de l'école coranique.
C'est tous les jours.
Ah oui, c'est tous les jours comme ça. Ils mettent des activités selon l'emploi du temps de l'école coranique. C'est comme ça.
Filles et garçons, pardon.
Filles et garçons, oui, exactement. C'est. Si la maîtresse ou le maître d'école coranique n'a pas donné son accord pour l'enfant parce qu'il voit que le niveau n'est pas satisfaisant, l'enfant n'ira pas au centre aéré parce que les maîtresses et les maîtres d'école coranique, ils ont quand même une place importante dans la vie aussi familiale puisque la moitié de l'éducation, c'est le maîtresse ou maîtresse d'école coranique qui le fait aussi pour l'enfant. Parce que, voilà, c'est...
Mais il ça peut... dure combien de temps l'école coranique après une journée d'école déjà?
Les journées d'école, là-bas, c'est pas comme ici. Mm-hmm. Déjà, dans l'éducation nationale, jusqu'en CM2, ils vont deux semaines le matin et deux semaines l'après-midi. C'est-à-dire, pendant le matin, s'ils sont à l'école, l'après-midi, ils vont venir à l'école coranique, vice-versa. C'est comme ça que ça se passe. Là-bas, c'est depuis la maternelle, ils n'ont pas cette capacité, comme ici en métropole, d'aller du matin jusqu'à l'après-midi à l'école. Mais voilà, c'est rythmé parce que le nombre de personnes augmente de plus en plus et il faut que ces personnes-là aillent à l'école. Et c'est le système qu'ils ont mis en place pour pouvoir accueillir
tous les enfants.
Oui, voilà, la majorité, pas tout, parce qu'il y en a un qu'ils n'arrivent pas à en inscrire. Bah, du coup, ils ratent, on va dire, une année et qu'on l'inscrit l'année suivante.
Vas-y, Claire.
Quand tu parlais de ton rôle d'aîné, oui. Ça veut dire que si toi, tu vas à l'école, tu ne peux pas t'occuper des tout-petits. On est d'accord, ça n'a pas été ton rôle.
Si je vais à l'école, bah, eux aussi, normalement, ils sont à l'école. Ou sinon, ils sont avec la mamie ou la tata quand ils n'ont pas l'âge d'aller à l'école coranique.
Voilà, donc ils sont avec les grands-mères. Ton rôle d'aîné, c'était plutôt en dehors des temps.
En dehors de mes heures d'école. Voilà, parce que même moi, j'allais à l'école coranique. Il n'y a pas d'âge où on peut s'arrêter à l'école coranique. Tant qu'on a l'envie et l'ambition d'y aller, bah, on peut y aller.
Et dernière question sur tes frères et sœurs. Combien vous étiez en tout? Tu nous as dit que vous étiez plusieurs, peut-être nombreux.
On est très nombreux. Cinq de ma mère.
D'accord.
Et cinq enfants adoptés de la part de mes parents. Du coup, on était 10 en tout.
10 enfants. Ah oui. Et c'est toi l'aîné? Le plus petit, là, quel âge?
Le plus petit, là, il a 8 ans. Il a 8 ans. C'est, je suis l'aînée. En tant que fille, hein, je suis la première fille, mais parmi nous, quand nous sommes 10, il y a un garçon aujourd'hui, normalement, il a 38 ans. Donc voilà.
Oui, c'est étalé. Donc il y a plusieurs mamans alors du coup. C'est ça que tu nous dis, entre les cinq premiers et les cinq, c'est une maman différente?
Oui, c'est une maman différente. Ils sont adoptés. Elle n'est plus parmi nous.
Ah oui, d'accord. D'accord.
Oh bazooka, tire bam bam. Oh bazooka, tire bam bam. Tire 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 bam bam. Bazooka, tire 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 bam bam. Bazooka. Nina gari voldizera, bele rujo na jokera. Usuni renge vantara, na mapema wanrotara. Sera mwelo mbio mbio, kilikita kazakara, sirikita maibwara. Oh bazooka, tire bam bam. Oh bazooka, tire bam bam, tire 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 bam bam. Bazooka, tire 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 bam bam. Bazooka.
Alors Mounira, donc tu as suivi une formation spécifique à Mayotte. Peux-tu nous en parler?
J'ai fait le lycée, déjà. Le lycée, j'ai un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une formation laboratoire dans les matériaux de construction. Et moi, j'avais pour ambition pour venir ici, à Grenoble, enfin plus à Grenoble, mais c'est grand, hein, pour faire une licence de biochimie. Mais je me sentais pas à l'aise à Grenoble par rapport à la ville, parce que c'est grand et là je partais de la famille pour la première fois. J'étais pas encore mariée, donc c'était vraiment, je venais à la découverte du monde toute seule, sans les parents. Je pars du nid directement pour venir prendre un logement ou me prendre en totale autonomie.
Et donc, tu n'as pas franchi ce pas?
Pas vraiment. Être toute seule, non, pas vraiment.
D'accord. Et tu as attendu aujourd'hui, alors, pour nous rejoindre à Cré?
Oui. Venir à Cré, c'était Pour le moment, ça fait partie d'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Et puis, voilà. Mais à Mayotte, les filles, on va dire, les jeunes femmes, les jeunes filles, ne quittent pas la maison tant qu'elles ne sont pas mariées. Ça, c'est quelque chose à préciser. Ou si ce n'est pour les études, pour l'obligation, parce que la continuité de ce qu'elle veut faire ne se trouve pas à Mayotte, mais ça doit l'amener à partir. C'est que dans ces conditions-là qu'une jeune fille peut partir de la famille, quitter le nid. Il n'y a que ces deux conditions-là. Sinon, on reste à la famille, même si elle a la trentenaire. Hein. On va rester chez maman et papa. Hein.
Et comment tu as eu l'idée de venir à Cré?
Par le biais des personnes qui habitent à Valence. J'ai une entourage, une très belle entourage d'ailleurs, des amis qui sont à Valence, qui sont venus à Valence, certaines pour leurs études, qui sélectionnent par rapport à, aux études justement, de là où ils veulent faire, qui passent ce cap-là. Allez, je vais partir, je vais prendre mon avenir en main, et quitte à être toute seule, voilà, je serai seule, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément... Il y a le taux de réussite des élèves qui partent à Mayotte de 1%, voire même moins. Parce que justement, il y a ce côté où ils se retrouvent seuls, sans famille. Ils doivent se débrouiller. Ils connaissent vraiment personne. C'est prendre cette autonomie, c'est vraiment prendre sur soi. Et du coup, il y a ce stress-là qui fait que... la majorité ne réussissent pas, ils s'orientent plus pour le travail et voilà, pour s'en sortir. Et mes amis, je les remercie d'ailleurs, ils sont à Valence, ils ont fait le maximum pour que je m'adapte au mieux.
Vous ne pouvez pas aller faire vos études à La Réunion, parce que c'est quand même moins
loin.
Si, il
y en a à La Réunion, mais ça dépend des vœux, hein. C'est l'éducation. Aujourd'hui, ils vont classer les vœux le maximum où ils peuvent et ils... En fait, ils vont à l'inconnu total parce que c'est là où ils seront acceptés, finalement. C'est pas, ils choisissent
c'est
pas
vous
pas
qui
la
décidez,
ville.
Ouais. Ouais.
Voilà, c'est, ça sera sur post-bac. Voilà, un tel lycée a accepté la candidature ou un tel fac, bah, ils iront là où ils étaient acceptés. Voilà, c'est pas on se prépare pour aller dans cette ville, on se prépare dans la ville qui nous ont acceptés.
Oui, c'est comme en métropole, vous avez le même post-bac en fait.
Oui,
on
ne
vous demande pas si vous voulez plutôt aller à La Réunion. Non,
oui,
ça,
voilà,
vous ne pouvez pas
ça.
Choisir.
Non, on met les villes, ils peuvent mettre La Réunion, métropole, mais c'est là où ils vont être acceptés.
Il y a des d'accord.
Et dans ton entourage des étudiants, est-ce que tu as eu l'impression que les personnes avaient une envie assez partagé d'aller plutôt vers la métropole ou au contraire, autant que possible, de rester à Mayotte?
Il y en a...
Bon, c'est pas facile de généraliser. Hein, mais...
Il y en a, ils voulaient plutôt venir ici pour découvrir, pour sortir dans le cercle vicieux de la famille parce que ce système peut... Voilà, il ne convient pas à tout le monde. Moi, ça me convenait, mais j'ai des amis, ça ne leur convenait pas. Ils se voyaient un peu restreints, ça leur étouffait. C'est pas ce qu'elle voulait. Et il y en a d'autres, c'est... Oui, s'ils pouvaient faire le choix, ils allaient rester, par exemple, parce qu'ils aiment ça, ils sentent en sécurité, ils sentent bien le fait de rester dans la famille. Il y en a, c'est ça.
Mais est-ce qu'il y a des possibilités d'études supérieures à Mayotte?
Oui. Oui, il y a l'IFM, qu'on appelle la seule université d'ailleurs qui est à Mayotte. Mais sinon, il y a des BTS, mais pas beaucoup. Et l'IFM maintenant, enfin un institut, c'est pas vraiment considéré comme une université, c'est un institut. Donc voilà, c'est, il y a une licence de géographie, de lettres, il y a pas beaucoup de voies en fait. Il y a pas beaucoup. Donc la majorité, ils sont amenés à partir selon ce qu'ils aimeraient faire.
J'ai vu, là, en préparant cette émission, en fait, en lisant des choses, j'ai vu qu'il y avait énormément, en fait, de Maoré qui partaient, effectivement, parce que problème de scolarité.
Oui, il y a avec... déjà, il y a ce problème-là qu'il n'y a pas beaucoup de voies scolaires où on peut choisir des vœux pour pouvoir faire ce qu'on veut, le métier qu'on aimerait, sans que ça soit les métiers de base. C'est-à-dire, je vais être médecin, je vais être pompier, je vais être voilà, des métiers qu'on dit stéréotypes et que voilà, si ce n'est pas ces métiers-là, il n'y a pas d'autres métiers. Du coup, il n'y a pas cette possibilité de se dire qu'il y a d'autres métiers qui existent et ils peuvent s'épanouir ou ils peuvent vivre de leur passion. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette mentalité pour le moment à Mayotte. Par exemple, il y a des jeunes talents, franchement, qu'on trouve que c'est dommage, qu'ils ont une main, qu'ils savent dessiner, qu'ils savent faire quelque chose avec leurs mains et la peinture, de l'art. Hein. Mais voilà, à Mayotte, ils ne savent pas ce que c'est le beaux-arts, par exemple, aller dans les écoles beaux-arts. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'on peut vivre de l'art. Ils ne savent pas ça. Donc, si les profs ils n'en parlent pas, ils n'auront pas connaissance. C'est vraiment restreint, c'est vraiment fermé. Et pourtant, il y a des multitudes de talents selon des élèves et qui ne viennent pas forcément des Mahorais, mais des îles voisines qui viennent étudier à Mayotte, par exemple. Et qui s'arrêtent, qui sont restreints parce que voilà, on ne connaît pas les autres métiers.
Et qui, ces personnes-là n'ont pas la possibilité de partir voilà, à La Réunion ou à la métropole pour faire des études.
Non, faute de papier. Par rapport à l'immigration, faute de papier, ils ne peuvent pas partir. Ils restent coincés à Mayotte, malheureusement. Et ils ne peuvent pas s'exprimer. Ce que moi, personnellement, je trouve très, très dommage.
Oui, tous ces jeunes sont frustrés, forcément. Oui, oui. C'est ce qui crée les problèmes et dont on entend parler.
Oui, voilà. Et ça crée une ambiance chaotique qui vire, qui ramène d'autres à une délinquance assez extrême et qui ça devient un quotidien invivable à Mayotte parce que voilà, c'est ils empêchent les autres d'aller faire d'aller à l'école parce qu'ils se disent tu vas à l'école, tu vas t'arrêter au bac. Aujourd'hui, pour s'inscrire, l'école est obligatoire dès 3 ans maintenant, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais après, ils ont le bac. Pour s'inscrire, on ne nous demande pas d'avoir une carte d'identité, on ne nous demande pas d'avoir le séjour. On nous demande juste l'extrait de naissance qui est obligatoire. Et puis, voilà, hop, on vous inscrit. Et il faut que la vaccination soit à jour, les enfants soient acceptés à l'école. Donc, dans ce cas-là, pour les inscrire à l'école, ce n'est pas le souci. Mais pour aller plus loin, étudier pour aller à l'université, pour aller faire BTS, à partir de là, c'est stop. Nous, on veut des papiers, maintenant on veut le séjour, maintenant on veut la carte d'identité. Du coup, toutes ces personnes-là, ils se retrouvent coincées après le bac. Après le bac, il n'y a plus personne. Et là-bas, il n'y a pas les métiers. On se dit que oui, il y a les métiers où on peut faire une insertion des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Sauf que parmi eux, il y a des jeunes qui sont diplômés pour le bac. Mais les métiers qui acceptent, on va dire les métiers qui acceptent les jeunes qui ont le bac, c'est des métiers de la fonction publique, la majorité. Et, sauf que les métiers de la fonction publique, ils exigent qu'on soit français ou au moins qu'on ait un titre au moins de 10 ans. Donc ces jeunes-là, finalement, ils se retrouvent sans rien. Ils ne peuvent ni continuer les études, ni travailler. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du pliage et ils empêchent les autres d'aller à l'école, ils se tapent dessus, voilà. Et maintenant, c'est les forces de l'ordre, ils interviennent, voire même la militaire, qu'ils interviennent et c'est chaotique. Ils caillassent tous les gens qui viennent, qui passent sur la route, ils veulent se faire entendre, mais ils n'ont pas forcément pris bonne voie.
Pas les bons moyens pour se faire entendre.
Oui, voilà.
Alors qu'en fait, ils auraient la possibilité de continuer des études, ça ne se passerait pas comme ça, en fait.
Oui, voilà, exactement. Ils ont le bac, ça y est, ils sont lâchés en pleine nature et puis il n'y a plus rien pour eux. Ces jeunes-là, ils restent dans l'inconnu. Ils sont les rejetés de la société, on va dire.
Oui, puis ils n'ont aucun lien avec leur pays d'origine, finalement.
Oh non, non.
Ben non, c'est ça. Oui.
C'est des immigrants qui sont nés sur Mayotte et puis voilà, finalement, ils ne connaissent même pas leur pays de leurs parents qui sont d'origine. On les traite d'immigrants. Alors que la majorité, la quasi-majorité, ils n'ont même pas foulé, même ne serait-ce qu'un pied dans leur pays en question.
Et ils sont nés à Mayotte.
Oui, voilà. Par rapport au droit du sol, c'est vous êtes né à Mayotte, vous êtes français. Vous êtes, voilà, c'est dès lors, vous êtes né à Mayotte. C'est pour ça que les gens, les immigrants qui viennent à Mayotte, il y en a, on retrouve des femmes enceintes qui veulent à tout prix accoucher sur Mayotte parce qu'ils se disent que j'accouche sur Mayotte, mon enfant sera français. Donc, mon enfant aura des papiers un peu plus vite par rapport à moi. Par le biais de mes enfants, j'aurai les papiers français. C'est pour ça que la majorité vient d'accoucher sur Mayotte.
Mais ce qui n'est plus vrai maintenant, en fait.
Oui, c'est oui, ce qu'on c'est essaye.
Voilà, ils ne le savent pas, finalement, encore. Les gens, où ils le savent, ils tentent quand même.
Ils tentent. Ouais. Ça a été longtemps comme ça. Maintenant, on a voulu abolir cette loi-là parce qu'il y a des lois qui sont votées ici en métropole qu'on ne peut pas appliquer sur Mayotte parce que ça serait vraiment aberrant. Déjà, ce droit du sol, c'est vraiment que sur Mayotte, honnêtement. Et ça ne prend pas son sens par rapport à ici. Ici, les gens, les immigrés, ils viennent, mais au final, ce n'est pas pour rester ici. C'est pour aller dans d'autres pays, pour avoir juste l'accès. Ils sont de passage ici, il y en a qui restent. Mais sur Mayotte, ça devient très vite chaotique là-bas.
Ouais. C'est petit Mayotte.
Très petit.
Et en plus, économiquement, on dit bien que Mayotte est le département le plus pauvre de France, en fait.
Oui, on est devenu département. Il y a ses bons et mauvais côtés. Mais c'est vraiment le plus pauvre, oui.
Le plus pauvre, oui.
C'est oui, ça. Par rapport au quotidien, ils survivent. On va dire, ils survivent, même quand on est... bien vivre là-bas, être dans la moyenne, avoir une bonne hygiène de vie, comme une personne ici qui travaille normal, sans endettement, tout ça, et il faut être cadre, clairement. Il faut être cadre pour pouvoir... Ou il faut travailler dans la fonction publique pour pouvoir bien vivre. Mais sinon, ceux qui travaillent dans le secteur privé, ils sont quand même dans le seuil de pauvreté. En dessous de la seuil de pauvreté, là-bas, c'est invivable. Pour donner un exemple tout bête, l'eau, qui est une première nécessité, un pack d'eau là-bas, on l'achète facilement à 7 euros, 8 euros.
Ouais, donc c'est pas accessible à tout le monde, quoi.
Pas à tout le monde.
Donc, le salaire moyen, c'est comme en France ?
C'est le SMIC, oui.
Le SMIC qui est salaire moyen.
Oui, voilà.
Oui, mais le SMIC donc, là-bas, il n'est pas au même niveau que celui de...
Il n'est pas au même niveau là-bas en ce moment. Il est à 1200-1300. Donc, il n'est pas au même niveau. C'est en bas. Et par rapport au coût de la vie, d'où la grève où ils faisaient la vie chère, bon, qui ne sont pas entendus. Hein, et voilà, ils ne peuvent pas vivre avec ce salaire-là. Ils ne peuvent pas du tout vivre avec ça. La majorité, ils se contentent de boire l'eau de robinet. L'eau de robinet qui est assez, pas vraiment bien traitée. Les gens tombent malades. Hein. Ils tombent malades. On se dit, en fait, vous ne pouvez pas boire l'eau de robinet. Il faut le faire bouillir. OK, d'accord. On a les usines pour traiter l'eau, mais au final, il faut quand même le faire bouillir pour pouvoir boire l'eau de robinet.
Donc, utiliser l'énergie.
Oui, voilà. Et c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Ils essayent, pour les nourrissons, d'acheter quand même les bouteilles d'eau. Il y a des aides, mais des aides qui sont pas suffisantes. Pas suffisantes pour la population.
On parle de la vie chère. Je vais vous faire écouter juste un petit reportage qui a été pris sur un marché à Mayotte, après le passage de Chido.
Les bananes semblent mûres. On ne sait pas si du coup elles sont sucrées ou pas. J'étais venue acheter des oignons, mais le prix est monté à 3 euros au lieu de 2. C'est cher.
Pour trouver les marchandises, c'est la galère. Bientôt, on peut même fermer le stand parce qu'il n'y a pas de marchandises. J'ai acheté à 3,20 €, je vais à 4 €. Bon, c'est le prix franchement abordable.
Je me rends souvent au magasin pour acheter des pommes de terre et manioc pour remplacer les bananes parce qu'on n'a pas le choix. Je suis embêtée parce que le ramadan arrive et il faut qu'on fasse notre stock de bananes et manioc, mais on n'en trouve pas.
Quels sont les échos que tu as de Mayotte après le passage de Chido et aujourd'hui ?
Mon mari l'a vécu là-bas et ce n'est pas du tout évident.
ce qu'ils vivent là-bas. Ce n'est pas du tout évident pour la population. Ils réfléchissent pour avoir à manger au quotidien. Et ça, ce n'est pas parce que, voilà, une personne qui a une bonne... il a les moyens de vivre ou pas. C'est... ils se réveillaient, ils se demandaient aujourd'hui, est-ce qu'on aura mangé? On est arrivé à ce stade-là. C'est est-ce qu'on aura à boire? Parce qu'il n'y a pas que... voilà, il y a maintenant, il y a les humains, mais il y avait aussi les animaux. Donc... les animaux qui partaient de la campagne, dans les forêts, qui venaient en ville, qui se faisaient écraser. Parce qu'il n'y a plus rien dans les forêts, il n'y a plus rien pour ces animaux, il n'y a plus rien pour les gens tout court. Du coup, il y avait les aides, mais il y a aussi ce côté où il y a les riz, enfin, ils mangent beaucoup de riz, consomment beaucoup de riz, mais là-bas, on aime beaucoup les bananes. On est une culture où on préfère plus les bananes. Donc, il n'y avait pas du tout de bananes. Il y a ce système où, à La Réunion, il y a des bananes, des gens qui venaient de La Réunion. Les aéroports, ils ont levé l'interdiction, comme quoi on peut ramener des fruits ou des choses, parce que ça a été interdit par la douane, tout ça. Et ils ont levé cette interdiction-là pour que les gens... qui partaient de La Réunion pour aller à Mayotte ou de la métropole pour aller à Mayotte pour leur ramener quelques bananes, en fait. Et il y a le conteneur des bananes qui est arrivé, qui s'acharnait dessus parce qu'ils se disent que ce que vous avez ramené avec la population, c'est pas suffisant. Donc même ce qu'ils ont ramené en aide, ils se battaient pour avoir à manger, en fait. C'est, on se bouscule pour avoir à manger parce qu'ils se disent que tout le monde n'aura pas, ce ne sera pas suffisant pour la population, pour manger au quotidien. Donc, c'est très, très rude. C'est la première fois que Mayotte subit autant de dégâts comme ça. Il y a eu un cyclone, mais ils ne l'ont pas subi de manière aussi forte que Chido. C'était vraiment la première fois et la population est restée tétanisée et ils ont peur. Et maintenant, le moindre coup, ils entendent s'il y a un cyclone qui se prépare ou la population reste traumatisée par rapport à Chido. Ils restent vraiment traumatisés, les maisons saccagées, on a eu plus de morts. Et il n'y a pas qu'au niveau alimentaire, mais l'hygiène aussi, là-bas. Les déchets qui ont été produits par rapport à Chido, les gens ils tombaient malades. Hein. Il y a eu beaucoup de maladies qui se sont créées par rapport aux déchets. C'est resté par rapport à Chido. Et il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de médecins à Mayotte. Donc, le peu de médecins qu'il y a là-bas, ils sont en débordement total. C'est inimaginable. Le travail qu'ils font, ils ne peuvent pas supporter. Et on comprend que... ils n'arrivent pas à supporter, ils partent parce que ça fait trop pour les médecins. C'est plus qu'en surcharge. Et mettre en quotidien du phénomène, l'insécurité des jeunes qui caillassent tout sur leur passage, qui frappent, qui, avec des machettes, tout ça. Il y a tout ça qui se mêle. Il y a l'avant Chido, situation chaotique, ou l'insécurité totale. Et il y a le Chido, ou même pour boire de l'eau, manger, tout ça, c'est rajouté au fléau de ce qui se passait déjà au quotidien. Et c'est encore pire. C'est encore pire en ce moment.
Et tu disais que les médecins quittaient Mayotte, les médecins libéraux ou des médecins qui travaillent à l'hôpital, enfin,
Les deux côtés. Il n'y a pas de médecins. Le peu de médecins qu'il y a là-bas, ils vont parfois aussi à l'hôpital hein, pour pouvoir aider, pour venir en aide. Parce que il y a par exemple un hôpital là-bas, un hôpital de Kani, où il n'y a pas du tout de médecins. C'est quand on a envie d'aller aux urgences, on nous dit allez à l'hôpital du capital à Mamoudzou. Parce que celui de Kahani, c'est une autre commune à Mayotte, à Kahani, il n'y a pas du tout de médecin. Donc, on peut vraiment ne pas aller à un hôpital ou aux urgences parce qu'il n'y a pas de médecin. C'est un fait.
Et ils font quoi?
Comment?
Et ils font quoi dans cet hôpital, du coup?
C'est les infirmiers qui font. C'est les infirmiers qui font leur check-up habituel, mais il n'y a pas forcément de médecin. Ils prennent en charge les personnes qui sont déjà là-bas, mais si c'est pour admettre quelqu'un, on dit que oui, c'est un état d'urgence, on leur écoute, sinon on appelle les pompiers et on nous donne les premiers soins à ce qu'il faut faire à la maison pour ne pas aller à l'hôpital, parce que les hôpitaux déjà ils sont surchargés. Il y aura des patients qui vont être dans les couloirs, qui vont être sur le lit, ils sont dans les couloirs parce que les hôpitaux sont surchargés là-bas. Donc voilà. On peut même se dire qu'on n'a pas la capacité d'aller aux urgences, on n'a pas la capacité d'aller voir un médecin libéral, parce que voilà, il n'y a vraiment pas de médecin. Et ça, ce n'est pas que le côté hospitalier, mais il y a aussi le côté dans l'éducation. Il y a les profs qui viennent là-bas, mais qui ne supportent pas l'attention, parce que les jeunes, ils vont jusqu'à se battre dans les collèges, dans les lycées, ils caillassent les bus scolaires, tout ça. C'est traumatisant pour... les élèves, certains élèves, tout comme les profs. Du coup, il y a des profs qui reviennent ici. Ils disent qu'on ne peut pas supporter cette ambiance à Mayotte. C'est entre ce qu'on entend dire dans les infos et ce qu'ils vivent sur place, il y a un fossé.
Est-ce que c'était des profs qui viennent de métropole?
Oui,
pour beaucoup.
Il y a des profs qui viennent de métropole, mais qui n'arrivent pas à supporter la situation. Et voilà.
Alors qu'en fait, c'est une histoire de papier. Les titres de séjour ne seraient pas...
Oui, tout vient de là.
Tout vient des titres de séjour ou voilà. de non-possibilité d'avoir la nationalité française.
Voilà, tout vient de là.
Et où les gens bougeraient.
C'est ce que nos députés, Estelle et Mansour Kamardine, ils essayent que, comme quoi, il faut les laisser passer, ces gens-là. Il ne faut pas qu'ils restent coincés sur Mayotte. Donnez-leur la possibilité de partir, parce qu'on ne peut pas... Ils ne sont pas acceptés dans leur pays pour les immigrants qui viennent de l'archipel de Comores, des îles des Comores, des îles autour de Mayotte. Ils ne sont pas acceptés, ils sont exilés. Une fois qu'ils sont partis de chez eux, leur président, ils ne veulent plus d'eux. Parce qu'il leur ramène cette phrase de « Mayotte, c'est comorien », alors que pas du tout, Mayotte, c'est français. Donc, il y a aussi... Ils jouent avec les mots dans la politique. Donc, ils sont exilés chez eux. Et à Mayotte, ils veulent pas non plus d'eux. Donc, ces gens-là, ils se retrouvent comme ça, comme un bal de ping-pong. Allez là-bas, allez ici, venez ici, et puis voilà.
Et même ceux qui obtiennent un titre de séjour, en fait, ce n'est pas les mêmes titres de séjour qu'il y a en métropole. Parce qu'en fait, ils n'ont pas autorisation de bouger. Non. Ils sont coincés. C'est le mot coincé qui m'a fait penser à ça.
Oui, ils sont coincés sur Mayotte. C'est pour ça que les députés demandaient, il faut, même si c'est un titre de séjour de un an, donnez-leur la capacité de prendre l'avion et partir pour qu'ils ne restent pas ici. Parce que si Mayotte ne devient pas juste un passage, Mayotte va... On a déjà sombré dans le chaos, mais ça sera plus que le chaos, ça va être les ténèbres, on va dire. Ça va être ça.
Et puis même pour ces jeunes-là dont tu parlais tout à l'heure, qui ont fait des études, qui après le bac ne peuvent rien faire, s'ils ont un titre de séjour qui leur permet d'aller à La Réunion ou d'aller en métropole, ils pourront poursuivre leurs études.
Ils le font.
Quand ils arrivent à avoir un titre de séjour.
Dès qu'ils arrivent à partir, ils le font. Ils ne restent pas sur Mayotte.
Mais pour ça, il faut qu'ils aient des papiers qui leur permettent de partir.
Oui, voilà. Et il y en a combien, on va dire, 1 sur 10, voilà. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Il y en a qui prennent en charge, il y en a qui se disent, vas-y, on va essayer de trouver d'autres manières, des Maoris qui sont déjà ici, on va essayer de les reprendre en charge pour qu'ils puissent avoir des papiers ou séjour de 10 ans pour qu'ils puissent partir. Mais voilà, ça reste ce fléau. À Mayotte, tout, à moindre chose, peut très vite déborder. Parce que les problèmes de base, ils ne sont pas réglés. Des choses qu'on peut trouver ailleurs banal. À Mayotte, ce n'est pas du tout banal.
Yeah, Kesha Jiviwa. Mana mwana mule ya zituli za lolwa. Ya sini dua. De amu sopele ya farsi ya kenanrola. Yenza baraka. Mariama jiviwa. Mana mwana mule ya zituliza lola. Sini dua de amu sopele ya Abdillahi hakenanrola yenza maesha.
Madea ringuliza narire melisama risu atote uwana waili wabenzana Abdillahi na Farsia kasiri na Fataha wanusha na pere basi nari wabebeye
badi kweli ujibita mwana mwema azitulita. Mwili ususumu hakula wa mwangalia. Tozi ushuka shuka shanda juwa ye ya mungia. Roho buha buha jama wapompea. Rangu zuzi na jana wasi ya tukaralala. Haungalitia nyora njema ya wana. Duwarazi wamba wasi ya tumida na mida. Nitakabaliwa wana waturi waloza.
Ndola njema de
kweli ujivita mwana mwenza sifa njema Abdillahi bwana harusi watu mungwana Mungu leo wahoshita bo wahuba malaika roho yae buruda zina lae farusia nyanzo zae na lata mahaba yae mema mwili wae singa mato yae ninga ninga amina isha wa muvenza ni daima.
Alors, tu parles des Mahorais. Tu peux nous parler un peu des différentes cultures qu'il y a et des différentes langues à Mayotte?
À Mayotte, il y a une multitude de cultures aussi. Hein. Il y a le langue qu'on appelle le Chibouchi. On a deux dialectes. Le Chimaoré, qui est un dérivé du Swahili, quand même. Et on a le Chibouchi, qui est propre à Mayotte, et Diego. Donc, Diego à Madagascar. Donc, ça, il parle, on va dire, la langue de Madagascar, le malgache. Mais à Mayotte, on appelle ça Chibouchi parce que c'est propre à Mayotte. Il y a d'autres personnes de Madagascar, ils ne vont pas comprendre cette langue-là. Alors, il y a ces deux dialectes à Mayotte que ce n'est pas la majorité qui en parle, le Chibouchi. Voilà, ceux qui parlent, on a des communes qui sont exclusives, ils parlent le Chimaoré.
Et d'autres, ils parlent le shibushi et qu'on ne se comprend pas. Hein.
Vous ne vous comprenez pas?
Ah oui, non, non, non.
Ah ouais. Et donc, la langue que vous comprenez, c'est le
Shimaori.
Shimaori, oui. Ah ouais, d'accord.
C'est la langue où toute l'île parler. Ah ouais. Oui.
Ça, toute l'île le parle. Oui. Le shibushi, par contre, c'est juste...
Oui, certains communes, certaines communes. Qui en parlent et qui parlent de ça. Et moi, je ne le comprends pas. Parce que mon mari, lui, il parle le shibushi. Moi, je ne comprends pas. Du coup, je ne parle pas sa langue.
Mais vous parlez shimaori et français tous les deux.
On parle shimaori et
français tous les deux.
On se retrouve, les jeunes se retrouvent dans le français ou le shimaori. Et ceux qui parlent shibushi, bah, ils parlent shibushi entre eux. Mais nous, les maoris, on est un peu égoïstes à ce niveau-là. Hein. Quand on se retrouve dans un groupe où ils parlent le shibushi, on va leur dire, même si c'est une personne qui parle shimaori, on va leur dire, non, mais parlez shimaori. Hein. Et c'est égoïste gentiment. C'est parler le shimaori. Vous êtes à Mayotte, parlez le shimaori. La langue, c'est shimaori, voilà. Et on aime bien. Et côté culture, c'est-à-dire au niveau des danses.
Oui, par exemple, ouais.
Ah, peut-être juste avant de passer, on peut aussi faire honneur aux différentes minorités culturelles qui ont leur propre langue, qui sont très peu représentées, mais que peut-être on peut ne pas oublier. Comme j'avais noté par exemple le Makonde, le Makua, des familles qui viennent, une famille de langue nigéro-congolaise ou d'autres toutes petites langues qui existent quand même si on ne les entend pas beaucoup.
À Mayotte ?
Oui, peut-être on peut
c'est
juste prendre
les Makua, ça. Peut-être ça va revenir avec l'immigration. Ah. Parce qu'il y a aussi des Congolais, il y a des Maliens là-bas, il y a des Saoudiens. Mm. Peut-être ça va revenir, mais le Makua là-bas, c'est... On va dire elle est morte, cette langue. Ces gens-là, c'est... on n'entend plus du tout parler.
Et l'arabe qui est...
L'arabe.
Et puis le français, bien sûr. Mais...
L'arabe, c'est par rapport à notre religion.
Donc la plupart des gens le parlent, mais dans ce contexte-là.
Oui, dans le contexte religieux. Dans le shimaori, on a des vocabulaires arabes. Dans le shimaori, on a des mots similaires aux Algériens et aux Marocains et Tunisiens. D'ailleurs, ces personnes-là, il y en a des Algériens, des Tunisiens à Mayotte. Mmh. Et on se retrouve, il y a certains vocabulaires. Par exemple, pour dire le mariage à Mayotte, nous on dit haroussi et les Algériens pour dire mariage, ils disent hars comme ça. Donc c'est juste l'intonation, la manière dont on prononce qui diffère, mais on se retrouve sur certains vocabulaires.
Parce que à l'école coranique, c'est en arabe.
Oui. C'est le Coran, c'est un arabe. Après, c'est de l'arabe littéraire et ancien. Mmh. Mais
du coup, vous êtes obligé d'apprendre cet arabe littéraire pour l'école coranique.
Oui.
Donc, en fait, toi, finalement, tu parles combien de langues ? Combien de...
Je ne dirais pas que je parle beaucoup de langues.
En tout cas, tu comprends.
On comprend.
Voilà.
On comprend. C'est quand on a la capacité de parler plusieurs langues, entre guillemets, parce que le shimaori, ce n'est pas une langue, hein. C'est un dialecte.
Donc... Oui, ou un dialecte. Oui.
Ça, c'est toute une discussion sur les langues et les dialectes. Voilà, ouais.
Donc on a cette capacité de comprendre d'autres langues un peu plus facilement. Moi, mon père, c'est quelqu'un, voilà, il est instituteur, donc il parle le shibushi, que je parle d'ailleurs de l'autre langue, et le français et le shimaori. Mais moi, je ne parle pas le shibushi parce que je n'ai pas voulu l'apprendre.
Mais tu le comprends.
Oui, je comprends. Il parle, je vais très bien comprendre. Mais je vais leur dire, je ne comprends pas.
Je ne parle veux pas parler.
Donc, je parle le shimaori, le français. C'est maintenant, on parle entre jeunes, en dehors de l'école, mais de ma génération, on ne l'apprenait qu'à l'école. Je parle comme ça parce que je dis je suis pas vraiment à l'aise en français parce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Et une langue qu'on apprend à l'école, honnêtement, on peut soit la maîtriser ou ne pas la maîtriser du tout. Donc, l'anglais, on l'a appris à l'école. Et l'espagnol, pareil, à l'école. En fait, en dehors de nos langues maternelles,
toutes les autres langues, on les apprend à l'école. Et l'arabe, on ne va pas dire qu'on parle arabe. Parce que ce qui est dans le Coran, l'arabe littéraire, n'a rien à voir avec l'arabe qui parle. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce que vous allez demander à un arabe de lire le Coran, ça, il faut l'étudier. Il faut l'étudier pour le comprendre. Maintenant, c'est facile parce que c'est traduit dans toutes les langues. C'est facile de lire, c'est traduit dans toutes les langues, heureusement. Mais on ne parle pas l'arabe. Un arabe, face au Coran, il va dire que oui, mais il sera incapable de dire que ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Voilà, on ne parle pas l'arabe. On comprend certains vocabulaires, mais on ne parle pas l'arabe là-bas. Et le créole, il y a beaucoup de jeunes qui maîtrisent le créole de La Réunion.
Oui, bah, ça fait quand même une sacrée gymnastique de l'esprit, hein, parce que...
Claire, tu voulais rajouter quelque chose, je crois.
Oui, parce que ça m'a intéressée dans les recherches là, en préparant l'émission. Et je voyais que c'était un vrai enjeu, les langues, en tout cas à Mayotte. Parce que, comme tu as dit, la culture et la langue de communication, c'est vraiment le Shimaori et le Shibushi. Et ça, c'est vraiment c'est une chance et ça n'a pas toujours été le cas dans les pays, par exemple, qui ont été colonisés ou qui sont devenus français, etc. Mais de garder vraiment une langue de communication spéciale du pays. Donc ça, c'est vraiment très, très présent. Tout le monde le partage et c'est la langue de communication. J'ai cru comprendre aussi que la langue française était une langue... c'est assez paradoxal parce que c'est la langue qu'on parle à l'école, c'est aussi la langue de l'administration, c'est aussi la langue qui va permettre d'avoir des postes de pouvoir. Donc c'est une langue quand même qui, alors qui n'est pas celle de la communication, mais qui est jouée d'une certaine valeur parce qu'on respecte les portes qu'elle ouvre. Et là, en ce cas, il y a du coup toute cette problématique de quelle valeur on met aux langues. Et visiblement, le français a sa langue, ses lettres de noblesse dans l'écrit, et le shimaoré et le shibushi, plutôt dans la communication, l'oral, la sphère de la famille, de l'intime, etc. Et ensuite, il y a l'arabe qui est aussi partagé, mais comme tu l'as très bien dit, dans les écoles coraniques, et qui a cet enjeu-là et cette place-là. Ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui, c'est que ça devenait un enjeu, qu'il y avait beaucoup de revendications pour qu'il y ait des ponts, c'est-à-dire à la fois que, éventuellement que le français soit plus parlé, mais surtout qu'à l'inverse, dans le système éducatif, on intègre de plus en plus les langues au sein même de l'histoire, parce que de l'éducation. Oui. Parce que sinon, ça fait des différences. Ceux qui parlent déjà français dans leur famille, ils arrivent à l'école et ils sont valorisés par rapport à quelqu'un dont ce n'est pas la langue de communication, mais ça va être juste la langue de l'école. Donc là, ça va être, il va y avoir une frontière et il y a déjà une différence. C'est ce qui fait que quand tu disais que quand ils viennent en France, c'est difficile de réussir les études. Oui, mais la langue est un enjeu parce que quand on la maîtrise moins, et ben on a ça en plus à apprendre pour apprendre un cours. Et donc, je crois qu'il y a quelques années, il y a eu deux dispositifs. Donc, c'est peut-être nouveau, c'est arrivé après, puis c'est en train d'être mis en place, donc c'est longtemps. C'est en cours pour valoriser les langues culturelles dans les écoles. Et donc on commence. Voilà, donc on commence à les enseigner plus, ce qui pose quand même des problèmes parce que on n'a pas les manuels scolaires encore, on n'a pas les enseignements, on n'a pas encore le matériel, et surtout c'est des langues qui sont tellement utilisées dans la communication que jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'alphabet fixe. Oui. Alors maintenant les recherches linguistiques visiblement ont réussi à faire quelque chose et on va dans ce sens-là, mais c'est encore un enjeu actuel. Et il y a très peu de traductions aussi de tous les livres. Enfin, toutes les traductions à l'écrit n'existent pas encore. Donc voilà, oui. Il y a tout cet enjeu-là et j'ai trouvé ça passionnant. Et Ça me permettra de faire le pont sur la culture dont tu voulais ensuite parler. Ce deuxième dispositif pour valoriser les langues culturelles régionales permet aussi de s'établir dans le domaine de la culture pour d'autres champs de l'éducation, mais par exemple le doublage des films, la traduction, l'édition. Faut rappeler quand même que la plupart des journaux sont en français, alors que les radios, y en a certaines qui sont en shimaori et en shibushi. Le théâtre, il y a des subventions du coup qui sont accordées pour ça. Ça peut devenir un enjeu. Et puis production de podcasts, de radio, etc. Voilà. En tout cas, ce qui m'avait interpellée dans certaines recherches.
Je peux faire une petite aparté sur ce que vous avez dit pour l'intégration des langues culturelles, que ce soit dans les écoles, dans l'éducation. Là-bas, on va dire que c'est assez facile et pas vraiment. Parce que ça a été le même système depuis des années. Moi, quand j'étais à l'école primaire, je me souviens, c'est drôle, hein, on avait quasiment que des maîtres qui parlaient, des maîtres qui parlaient un tout petit peu le français, mais qui parlent le shimaoré. C'est-à-dire, quand on avait des choses qu'on ne comprenait pas, ils le disaient en shimaoré. Il le disait en shimaoré. Et parfois, pour nous punir, parce qu'on était punis à cette époque-là, il nous disait en shimaoré, il nous disait, mais oh, à ton âge, tu comprends pas ça? Il nous engueulait dans notre langue en shimaoré et il nous disait par la même occasion, mais en shimaoré, mais parle en français. Après, nous, on était là, monsieur, mais. Vous-même, vous parlez en shimaoré, là. Là, c'était comme ça. Donc, le fait qu'ils intègrent les langues culturelles dans les écoles, c'est facile pour eux. Parce qu'il y a des maîtres et maîtresses qui parlent... il y a cette langue. On arrive facilement à leur éduquer par rapport à notre langue. Et le shibushi et le malgache. Et il y en a qui vont un peu plus loin. S'ils connaissent pas, ils parlent un petit peu le Lingala ou ils parlent le Bambara. Il y a des Africains, on va dire, entre guillemets, parce que voilà, ou des Congolais, je préfère parce que les Africains, hein, des Congolais ou des Maliens, il y a d'autres profs de d'autres pays, mais ils intègrent ça et ils arrivent à pallier avec le shimaoré, ils les expliquent, et les enfants, ils le prennent très, très bien. Mmh. En fait, ce n'est pas difficile. À partir de la maternelle, ce n'est pas vraiment difficile. Là, les gens de la maternelle, les enfants, ils savent mieux compter en shibushi que moi. Hein. C'est... Parce qu'on les apprend, et c'est facile pour eux. Et comme le français, tout à l'heure, vous l'avez souligné, hein, le français, on l'apprend à l'école. Mais entre jeunes, on parle en français et on l'intègre dans la famille parce que Mayotte a décidé d'être français. Ça, c'est une fierté propre de Mayotte. Mmh. Et on a décidé d'être français. Donc, comme on veut être français, il faut qu'on s'adapte à cette langue-là. On a voulu être français, on doit s'adapter à parler français. Sinon, voilà, ça serait complètement aberrant. On veut être français, mais on ne veut pas prendre leur mode de vie, enfin, pas mode de vie, la façon dont ils communiquent ou ils parlent. Donc, ça devient une obligation. Mmh. Une obligation qui n'est pas forcément lourde à porter. On doit apprendre à parler français pour comprendre ce qu'il y a à faire, pour pouvoir faire d'autres choses. Et naturellement, nous, on l'installe au quotidien dans notre vie tous les jours. Quitte à apprendre même nos arrière-grands-parents, on les apprend hein, quand on dit quelque chose. Et nous, ça nous fait rire. C'est pas dans cette obligation, on apprend la langue française parce que c'est difficile. Finalement, ça devient un sort de jeu parce que quand ils parlent, quand ils communiquent, on se moque d'eux gentiment parce qu'on se dit, mais en fait, finalement, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais c'est comme ça. Et ils ont des médicaments, nos grands-parents, c'est quoi ça comme médicament? Toi, tu es parti à l'école, on ne t'a pas mis à l'école pour rien. Montre-nous pourquoi on t'a mis à l'école. Maintenant, explique-nous c'est quoi. Ça devient comme ça.
même pour pouvoir régler autre chose comme banale au quotidien, on les explique. Mm-hmm. Et au final, c'est pas lourd à porter. Ça devient amusant. Et à l'école, on ne fait pas cet aparté en disant que tu ne parles pas français à la maison, donc voilà, tu seras moins pris en charge. Ah non, pas du tout. Les profs, ils ont ça en tête et ils le prennent en compte. Les profs qui restent, ils le prennent en compte qu'il y a ça. Et puis, il y a le système éducatif. Ça, par contre, que ça, c'est un avis personnel. Le redoublement n'y est plus maintenant. Et on trouve ça dommage parce que, voilà, même s'il n'a pas le niveau, il est obligé d'aller à une classe au-dessus. Voilà, et ça crée cet handicap. On a malheureusement, à Mayotte, le niveau d'études est très, très basse. On peut avoir des collégiens qui ne savent pas lire, qui ont un niveau de lecture de CE2, CM1, par exemple, là où ils apprennent à lire.
En métropole aussi. Hein.
Donc ça, on trouve ça dommage. Mais bon, après, c'est les systèmes éducatifs. Hein. Et ouais, c'est bon, hein, sur le côté culturel pour la langue. Chez nous, c'est pas vraiment une barrière qui va faire mal. Hein.
Oui, j'entends que c'est important de le rappeler parce que on peut pas forcément imaginer qu'il y a toute cette bonne entente, mais que c'est pas forcément ce qu'on appelle un bilinguisme, mais plutôt une diglossie, c'est-à-dire que chaque langue a ses petites spécificités et ses emplois, en fait, hein, plus que ça, alors.
Oui, maintenant, on les encourage à parler français. Ça devient normal, en fait, de parler le français, et même si on mélange les deux.
Ok.
Dans notre phrase, on va parler, on va finir en chimaoré, on va dire, mais finalement, ça s'installe naturellement.
C'est fluide.
Oui, c'est... mais on en parle. On se retrouve finalement, contre tout, hein, finalement, on se retrouve à parler français et quand il y a un groupe de gens qui ne parlent pas la langue. On se retrouve tous à parler le français en sachant que tout le monde apprend cette langue-là.
Donc tout le monde va le comprendre.
Oui, voilà.
Je vous propose une petite pause musicale avec une chanteuse dont Mounira nous a parlé quand on a préparé l'émission. Tu nous expliqueras après ce qu'elle dit dans la chanson.
Ali
Mounira, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que raconte cette chanson ?
Alors, c'est la chanteuse Zili. Je suis fan d'elle. Hein. Je suis vraiment fan d'elle. Une très, très belle femme.
On a pu voir, en fait, pendant que la musique passait, parce que tu dansais. Donc, on a vu que tu étais fan.
C'est une femme, l'une des femmes emblématiques de Mayotte. Hein. Et dans cette musique, elle parlait de la femme mahoraise. Que c'est une fleur. Aussi, la fleur d'ilang-ilang. À chaque fois, elle disait d'inalang-ilang et d'inalaflira. L'ilang-ilang, c'est le nom d'une fleur. Et donc, la femme, c'est une fleur. Et là-dedans, elle dit que la femme, elle travaille dans les champs. La femme, elle peut être dans les bureaux. Et la femme, elle se marie. La femme, elle est violée dans tout ça. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Elle met en avant ce que subissent les femmes mahoraises et en même temps la force des femmes mahoraises. Et dans tout ça... elles se mettent en avant, elles restent les leaders des familles, c'est les chefs de famille dans tout ça. Même si devant, quand on est d'autres personnes, elles restera derrière, mais là-bas, à Mayotte, c'est les femmes les leaders, c'est les femmes les reines, c'est eux qui prennent les décisions de la famille. Voilà, c'est un pays matriarcal. Donc c'est quelque chose que je suis très très fière et je pense que les féministes aussi vont être très très fières.
Nous on est très très attentives à ça.
Ah oui, c'est curieuse et on a été très contente de l'apprendre quand tu nous l'as. Enfin moi je l'ai appris avec toi la première rencontre et c'est génial.
Et on voudrait que tu nous racontes un petit peu en quoi ça correspond parce que bon moi je suis allée voir un petit peu. Ce que vous apportez, vous, les femmes, à Mayotte. Et moi, j'ai lu que vous pouviez apporter le nom, l'héritage, le statut social.
Exactement.
Ce qui est énorme, parce que nous, chez ici, ce n'est pas le cas. Alors, vas-y, raconte-nous un peu.
L'héritage, c'est transmis de femme à femme. Ce n'est pas l'homme. L'homme, il n'a rien là-bas.
On adore.
L'homme, c'est un soutien dans la famille, c'est un soutien financier et ça s'arrête là. Donc, s'il y a quelque chose, excusez-moi de le dire, excusez-moi pour les hommes, mais on est très fiers de ça. Et même les hommes de là-bas, honnêtement, c'est pas qu'ils aiment pas se mettre en avant, mais la majorité d'une personne, voilà, des hommes, qui sont à peu près posés dans leur esprit, ils sont d'accord avec ça. Le fait que ça soit l'héritage vienne aux femmes, ils sont complètement d'accord avec ça, que ça soit la femme la leader. Et Zainab Déré, l'une des femmes emblématiques de Mayotte, qui se battait pour Mayotte, et les femmes qu'on appelait les chatouilleuses, les femmes vont en avant. Les femmes vont en avant dans tout ça. Ils se mettent en avant, que ça soit pour... on espère ne pas en arriver là. Que ce soit les guerres, que ce soit dans tout, les femmes vont vraiment en avant. Parce qu'on estime que les guerriers les plus valeureux, c'est ceux qui ne brandissent pas forcément l'arme. Les guerriers les plus valeureux, c'est avec leurs paroles et les gestes. On les appelait les chatouilleuses parce qu'ils chatouillaient leurs victimes et ils mouraient de rire. Tellement on les chatouillait. Et... on les torturait avec le rire et ça a fonctionné. D'où leur nom, les chatouilleuses. Donc, on a mis la femme en avant parce que ça reste un bouclier où on ne peut pas percer. La femme, elle peut être silencieuse, tout comme elle peut crier, mais on reste fort dans tous les cas. Tandis que l'homme, sans vouloir les rabaisser, ça crie un peu dans certaines conditions où ils ne peuvent pas supporter. Alors que nous, on supporte beaucoup. Nous, les femmes, on supporte beaucoup et on peut supporter dans le silence et avancer. Avant, montrer ses larmes, ce n'était pas vraiment quelque chose qui est permis. Les femmes, avant, elles supportaient un mariage qui ne sont pas forcément heureuses dans le mariage et elles souffraient en silence. Parce que il y a ce côté-là où on se dit non, faut pas divorcer parce que voilà, c'est non, non, non. Mais il y a le soutien des autres femmes derrière, il fait pas ça, mais en fait, fait ça, il va partir de lui-même. Il va faire ça, ça. On se soutient entre femmes là-bas. Et ça, c'est devenu comme ça. Avec le soutien entre femmes intermédiaires, l'homme a envie de parler en public, on leur laisse parler en public, mais en vrai, c'est la femme. Non, mais tu fais pas ça. Parce que pour moi, c'est pas bon. Il y a ci, il y a ça. Et ça se met, et c'est évident ça à Mayotte, que c'est la femme qui prend les choses en charge. Et les chefs de famille, c'est des femmes. C'est pas des hommes. Quand on va dans les mariages, parce que c'est dans la religion, voilà, pour donner la bénédiction, ils sont sauvés par rapport à la religion, qui remercie la religion. Mais sinon, si ce n'était pas dans la religion, ça allait être la femme là-bas à Mayotte qui allait prendre les décisions. Genre, j'accepte de donner la bénédiction pour que mon enfant se marie. Mais si ce n'était pas ça, les hommes, ils allaient prendre aucune décision très, très lourde.
Donc, il n'y a pas... contre quoi vous battez maintenant les femmes mahoraises qui pourraient empiéter sur vos domaines ? Par exemple, soit la religion, soit les traditions, soit, moi, j'ai lu que les lois françaises, parce que les lois françaises, je ne vais pas y arriver, mais bon, bref, chez nous, l'héritage va... c'est pas dirigé comme ça, tu vois ? L'héritage, il est réparti entre les enfants, c'est pas la femme qui décide, c'est... Voilà. Est-ce que les lois françaises, oui, ne vont pas contre votre société matriarcale, non ?
Mais on n'écoute pas ça.
Ah, voilà.
C'est
c'est le mieux.
On n'écoute pas par rapport aux lois françaises qui empiètent sur nos valeurs, nos traditions. On va les entendre, mais on ne va pas forcément les appliquer. Parce que même les hommes là-bas, ils ne vont pas les appliquer. C'est-à-dire, tellement on a cette habitude, un père de famille, il va savoir que sa fille aura quelque part où aller. Cet héritage, c'est à ma fille. Je sais que ma fille va être protégée. C'est un peu plus facile d'un homme de partir d'un foyer à un autre qu'une femme de partir de son foyer avec des enfants. C'est moins facile. En plus, les hommes, que ce soit les politiciens, que ce soit n'importe qui, ils sont d'accord avec ça. Dès lors que ça empiète dans nos traditions propres, on ne les accepte pas. Que ce soit homme ou femme, on n'accepte pas. Et c'est comme ça et j'espère que ça va pas changer plus tard. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un garçon. Je sais que c'est moi qui dois accueillir ma belle-fille. C'est moi. C'est pas mon fils. C'est mon fils qui va aller habiter chez ma belle-fille. Donc, c'est elle qui va ouvrir les portes. Demain, si mon fils il fait n'importe quoi ou ils s'entendent pas, par exemple, c'est lui de prendre ses bagages en fait de partir parce qu'il n'est pas chez lui. Et la maison, tu pars tout seul, tu laisses les enfants là et on va prendre en charge. C'est pas parce que vous êtes le papa, les enfants t'aiment et tout, patati patata, que voilà, nous on peut pas prendre soin de nos enfants en fait. Donc ça a toujours été comme ça. Le papa il part juste avec ses bagages s'il veut, mais le peu de bagages qu'il aura. Mais voilà, la maison reste propre à la femme. La maison, c'est l'héritage est transmis aux femmes. C'est pour cette sécurité, justement, se dire que la femme ne se retrouve sans rien. C'est vraiment par pure sécurité de base. Hein. On est parti qu'on préfère que ce soit la femme qui soit en sécurité que l'homme. Parce qu'un homme, franchement, pour se reconstruire et par rapport, on va dire, aux pensées arriérées de l'époque, c'était plus facile pour un homme. Parce que les hommes, on les habituait très tôt dans la génération de mes parents et puis autres. On habituait un homme ne restait pas à l'adolescence, chez sa famille. Il prenait une maison qu'on appelle là-bas un banga. En fait, c'était des maisons en tulle. Et ils habitaient loin de la famille pour éviter ce côté-là où il doit voir sa sœur dans certaines positions ou qu'elle soit habillée d'une façon ou d'une autre qui pourra l'attirer à commettre de l'inceste, c'est-à-dire. Donc, quand les garçons, ils étaient en âge de quitter la maison, à 15 ans, un garçon n'était pas chez ses parents. Alors que la fille devait rester chez les parents jusqu'à ce qu'elle se marie ou par rapport aux études, c'était comme ça. Mais c'était pas autrement. Maintenant, ça a évolué. Les filles aussi partent par rapport à leurs études, mais voilà, ça reste un pays matriarcal.
Donc, quand tu te maries, c'est le mari qui vient habiter chez sa femme.
Oui,
oui.
Comme mon mari, c'est lui qui est venu
chez moi. C'est toi qui as décidé.
C'est comme ça. C'est tellement naturel que ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. C'est rare que ça soit le mari qui accueille la femme. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que c'est une famille qui n'a pas de biens immobiliers ou patrimoine, voilà, qui n'ont pas une maison. C'est dans ces conditions-là où cette femme-là va suivre le mari. Mais au final, la maison devient celle de l'enfant. S'il y a une fille qui est née dans cette famille-là, mais la maison ne sera plus au père ou à la maman, mais ça sera à la fille, automatiquement.
Ah ouais, carrément.
Oui, oui.
Je propose qu'on termine l'émission sur ces belles paroles, parce que ça donne de l'espoir. Enfin, on devrait prendre modèle sur Mayotte. Sur toutes ces questions-là, on va peut-être devenir une société matriarcale aussi. Ça serait chouette. En tout cas, merci beaucoup, Mounira.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Merci.
Un réel plaisir.
Alors, nous remercions Sarah qui a assuré la technique, comme chaque fois.
Ça va changer, ça aussi.
Une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs,
d'ailleurs vers ailleurs.
India las espuelas calcé.
Parceiro, João Donato.